la compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une compagnie des auteurs consacrée jusqu'à jeudi à un maître du récit d'aventure comme du conte fantastique, Robert Louis Stevenson. Et en effet, c'est à un seul et même écrivain que nous devons ces deux grands romans dans deux genres très différents que sont Dr. Jekyll et Mr. Hyde d'un côté et L'île au trésor de l'autre. Deux romans iconiques qui éclipsent d'ailleurs un peu un troisième chef-d'œuvre, Le Maître de Ballantré, pourtant considéré par certains comme son roman le plus abouti. Il faudrait aussi citer deux autres ouvrages dans la bibliographie de cet homme qui n'aura vécu que 44 années entre 1850 et 1894. Le Voyage dans les Cévennes avec un âne ainsi que Olaya, deux récits dont nous parlerons jeudi dans ce qui sera le dernier numéro de cette saison de la compagnie des auteurs. Éric Poindron et Alain Jumeau seront mes invités. Mercredi, notre émission sera consacrée au voyage et en particulier donc à l'île au trésor. Ce sera avec Marc Poré. Demain, nous serons sur la thématique du double chez Stevenson, Jekyll, Hyde et Ballantré en particulier. Et puis aujourd'hui, nous vous proposons le portrait d'un homme qui n'a jamais douté de sa vocation.
Tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, je devais finir par écrire un roman. Inutile de demander pourquoi. Chaque homme naît avec ses manies. La mienne, depuis ma plus tendre enfance, a été de jouer à combiner des événements imaginaires.
En ce qui nous concerne, ce sont autant que possible des événements réels que nous allons relater dans cette première émission à dominante biographique avec un invité dont le projet consiste depuis des années à dire le poème du monde. Cet invité, c'est Michel Lebris, créateur et animateur du festival Étonnant Voyageur à Saint-Malo, puis de la revue Gulliver, l'auteur aussi d'une biographie de Stevenson et de bien d'autres ouvrages à son propos. Il a même été jusqu'à poursuivre le roman inachevé du grand écossais et a édité sa correspondance avec Henry James.
Ce climat, ces traversées, ces arrivées dans la splendeur de l'aube quand montent des îles neuves à l'horizon, et tant de nouveaux ports, les grains qui passent à toute vitesse et les barres de corail, l'accueil si doux des indigènes. Le roman de ma vie me paraît aujourd'hui plus beau que le plus beau des poèmes. Il y a eu plus de plaisir et de joie dans ma vie ces derniers mois que jamais auparavant, et j'ai joui d'une meilleure santé qu'à aucun autre moment en 10 longues années.
Bonjour Michel Lebris.
Bonjour.
C'était donc un court extrait de l'une des nombreuses lettres de Stevenson à Henry James, puisque les deux écrivains correspondaient énormément, et vous êtes bien placé pour le savoir, vous avez édité la correspondance.
Oui, j'ai même retrouvé pas mal de lettres. Il y avait eu une édition, il y a très longtemps, de cette correspondance, mais très partielle. Et puis, bon, voilà, j'ai exploré tous les fonds possibles, imaginables, pour retrouver... c'est assez étonnant. Ce sont deux auteurs apparemment opposés. Et en gros, quand moi, je me battais pour une idée plus aventureuse de la littérature, je rencontrais beaucoup d'amateurs d'Henry James, enfin, son petit doigt en l'air, qui considéraient avec mépris cette littérature mineure. Et j'avais le plaisir de pouvoir leur dire... Mais Henry James, lui, considérait que Robert Louis Stevenson était le plus grand écrivain de son époque. Stevenson, d'ailleurs, considérait que c'était Henry James, bien sûr, mais c'est une correspondance extrêmement émouvante parce que c'est la correspondance de deux personnes qui s'estiment énormément, qui s'aiment et qui discutent en fait de ce que James appelait ce simple mystère, raconter les histoires. Et il le prenait par les deux bouts, en fait, de la création artistique. Et chacun était une énigme pour l'autre, quelque part, mais constatait en même temps que ça marchait. Et donc, essayer comme ça de se rapprocher. C'est même aller très loin, parce que on l'ignore généralement, mais leur amitié a débuté par un essai de Stevenson. Il s'appelle Une humble remontrance, et c'est une remontrance à Henry James, c'est-à-dire qu'il lui avait écrit un texte en disant « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous écrivez ». Et James répond ensuite à Une humble remontrance, en gros en disant « Vous avez raison ». Et publiera un texte qui est donné comme pratiquement fondateur de la littérature moderne de l'époque. Et ce texte reprend très exactement les termes de cette humble remontrance.
Alors, on va parler aujourd'hui de la biographie de Stevenson, mais puisqu'on est sur les lettres, on peut continuer un petit peu. Quelle image cette correspondance, alors celle avec James, mais peut-être de manière plus globale, la correspondance de Stevenson, quelle image ça donne de lui? Quel portrait on peut faire de lui à travers ces lettres?
J'ai du mal à en parler quelque part parce que il est devenu tellement proche. J'ai quand même.
Mais vous dites que vous le connaissez intimement maintenant.
Bah, j'ai lu la totalité de ce qu'il a écrit. J'ai passé des années à rechercher des textes inédits. Sa correspondance était la clé d'une biographie nouvelle, tout simplement parce que quand il est mort, son ami, entre guillemets, Sidney Colvin, s'est préoccupé de publier cette correspondance en enlevant tout ce qui lui paraissait gênant. Et donc, ça donne l'idée, notamment sur la fin, d'un gentil membre de Club Med dans les mers du Sud. Et c'est une image totalement fausse. Mais l'image de l'enfance, c'est pareil. Il faudrait plutôt penser à quelqu'un de la Beat Generation, disons, quelque part.
Vous avez écouté notre série de la semaine dernière, peut-être sur la Beat Generation?
Non, mais je suis très proche de toute cette esthétique.
Qu'est-ce qui le rapproche?
La rupture, d'abord, avec la société de son temps. Mais très profondément, je veux dire, c'est pas une rupture vraiment politique, c'est vraiment existentiel, je veux dire, c'est une rupture avec une rupture douloureuse avec sa famille, avec la société bourgeoise écossaise, avec le bourgeoisisme de l'époque. C'est quand même quelqu'un, par exemple, qui n'a jamais eu de maison ou qui n'a jamais habité de lieu fixe, presque jusqu'à la fin de sa vie. Et encore, la maison dans laquelle il s'est retrouvé, c'est une maison que son père avait achetée à sa femme, parce qu'il savait bien que lui, il refuserait. C'est un vagabond dans l'âme.
Alors Michel Lebris, Robert Louis Stevenson est né à Édimbourg. C'était le 13 novembre 1850 dans une famille qui n'était pas particulièrement voyageuse, mais qui a pourtant parti lié avec la mer.
Ben, il est né dans une famille de constructeurs de phares. Il a écrit, c'est un des derniers textes que je n'ai pas pu éditer en français, mais qui n'est plus disponible en anglais depuis l'époque de Stevenson d'ailleurs, c'est le Record of Family Engineers, c'est les souvenirs d'une famille d'ingénieurs. Et la construction de ces phares dans le nord de l'Écosse, dans des endroits absolument impossibles, où ils se faisaient attaquer par les populations qui disaient « mais on nous prive de notre gagne-pain », puisqu'il n'y avait rien là d'autre que les bateaux qui faisaient naufrage. Il est né, il a entendu dans toute sa jeunesse les récits absolument extraordinaires des épopées que furent ces constructions de
phares. Son grand-père et de son père
et aussi. De son oncle. Et c'était vraiment toute la famille. C'est l'épopée des phares du Grand Nord, c'est l'épopée des Stevenson. Et sur la fin de sa vie, parce que ça a été un déchirement pour lui de dire à son père un jour, écoute papa, non, moi c'est la littérature, c'est pas je ne prendrai pas la suite, c'était épouvantable pour le père. Et ça l'a rongé toute sa vie, ce refus. Il s'est senti coupable toute sa vie de ça. Et sur la fin de sa vie, quand il écrit ce livre, il a une jolie phrase où il dit « Mais finalement, j'ai peut-être quand même été fidèle à quelque chose de ma famille. Moi aussi, mais en littérature, j'ai essayé d'éclairer les ténèbres. »
parce que enfant, tout de même, il partait avec son père pour faire la tournée des phares, et il y a quand même quelque chose de très romantique dans la relation du père avec avec le fils, sachant aussi que le père voulait être écrivain lui aussi.
Alors il a eu des tentations de cet ordre-là. C'est un personnage très complexe, très austère et fantaisiste en même temps, très profondément religieux et en même temps le fils, étant amoureux de sa mère, avait entretenu des rapports de jalousie. Il faut quand même voir la première femme dont il tombe amoureux. La première femme dont il tombe amoureux a 10 ans de plus que lui, est mariée et a un enfant. La deuxième femme dont il tombe amoureux a 10 ans de plus que lui et 2 enfants. La troisième femme, qui sera en fait son épouse Fanny, a 10 ans de plus que lui et a déjà 3 enfants. Et dans la correspondance de sa mère raconte à un moment donné, elle se promène avec son fils qui doit avoir 18, 19 ans, etc. Et elle note que des gens qui ne le connaissaient pas avaient cru que c'était son mari. Il y a quelque chose de très, très, pas étrange, mais on sent bien que c'est une famille, de ce point de vue-là, extrêmement complexe, avec une deuxième mère qui était sa nurse.
Camille.
Camille, qui était presque sa vraie mère, parce que Maggie, sa mère biologique, était de santé fragile, souffrante,
dépressive,
etc. Camille, c'était vraiment l'écossaise qui lui racontait des histoires absolument épouvantables quand il était gamin. Et il a gardé avec elle des rapports extraordinairement affectueux jusqu'à la fin de sa vie.
J'écoutais les nouvelles monter de ce grand monde vacant sur le sommet duquel je me trouvais. Je les écoutais pour les intrigues palpitantes que je pouvais ensuite rejouer pour moi seul, pour les scènes romantiques et pour les événements que je pouvais faire revivre devant moi. Rien qu'en fermant les yeux, quand j'étais fatigué de l'Écosse et de ma maison et de cette prison qu'était devenue ma chambre de malade.
Alors Michel Debris, comme beaucoup d'écrivains, et notamment beaucoup d'écrivains d'aventure, Stevenson a été empêché très tôt de sortir. Il a été privé de liberté, au fond, par une maladie chronique qui le clouait au lit.
Qui était probablement de l'emphysème pulmonaire. On a dit tuberculose, mais il y a suffisamment dans les archives de description de sa maladie par des médecins à différentes époques. Je les ai donnés à lire à deux spécialistes, et les deux, lisant ça, m'ont dit, mais c'est de l'emphysème, c'est pas de la tuberculose, c'est de l'emphysème pulmonaire, en fait. Et il s'est servi, il a joué aussi dans son enfance, de sa maladie, pour rester dans ce qu'il appelle après une prison, parce qu'il était chétif, rêveur, il avait beaucoup de mal à s'intégrer aux bandes de gamins braillards, autrement. En gros, il a joué de ça pour ne pas aller à l'école, on peut dire, pour faire vite, il n'est jamais allé à l'école réellement. Il rentre par protection à l'université, là où son père veut qu'il fasse ses études pour devenir ingénieur, déploie un génie absolument extraordinaire, c'est à hurler de rire quand on lit sa correspondance à cette époque-là avec ses copains d'ailleurs, ses quelques copains, pour ne pas aller en cours. Réussit par une espèce de miracle invraisemblable à devenir avocat,
sans jamais exercer.
Non, mais en plus, sans jamais suivre les cours. C'est-à-dire que 3 mois avant l'examen fatal, tout d'un coup, il dit, bon Dieu, je vais me faire tuer si je réussis pas. Il bosse comme un forcené pendant 3 mois, il apprend par cœur un certain nombre de cours sans rien comprendre du tout à ce qu'il apprend. L'examinateur lui pose une question, c'était un examen oral qu'il connaissait, donc il débite à la virgule près exactement la totalité du cours. Le prof le regarde absolument éberlué, tellement impressionné qu'il ne lui demande pas une simple question de plus qui aurait révélé qu'en fait, il ne connaissait rien à ce dont il parlait, et il s'est retrouvé avocat.
Donc Stevenson, c'est quelqu'un qui joue sa vie sur des paris.
Non, mais là, il avait vraiment la tête. Il avait vraiment la tête ailleurs. Il était déjà partagé entre l'Écosse, Barbizon, les communautés de peintres de Barbizon, etc. Bon. Simplement, il dépendait financièrement de son père et il avait intérêt à réussir cet examen. Et tout ça lui faisait totalement horreur. Et quand, après, pour devenir effectivement avocat, il faut prononcer un petit truc comme ça, là, et en habillé en avocat et tout ça, et il a été incapable de le faire. Et quelque part, c'est vraiment l'inconscient qui l'empêche de basculer de ce côté-là, quoi. Et donc... Après, le père, constatant le désastre, dira, bon, ben voilà, il va écrire, d'accord, et puis il va quand même le soutenir, bon, en essayant de le tenir ferme en même temps pour qu'il ne déborde pas, mais ça s'est joué à ce moment-là, le père a dû renoncer.
Écrire et puis marcher, parce que c'est un grand marcheur, alors, dans les Cévennes, on le sait, on en parlera plus particulièrement jeudi, mais c'est aussi quelqu'un qui marchait à Édimbourg, et puis qui pouvait rencontrer dans des bars malfamés, tout un tas d'individus, donc c'est quelqu'un qui est comme ça attiré par l'extérieur.
Attiré par le dehors, il y avait une phrase très belle qui dit « le dehors guérit ». Et pour lui, c'était vrai, c'est-à-dire que ce qu'il y a d'extraordinaire à chaque fois qu'il était malade, qui montre aussi que quand il était souffrant, l'emphysème, certes, mais aussi c'était psychologique, c'était des contradictions social dont il n'arrivait pas à sortir, en fait. Et il y a quand même une méthode pour se guérir, c'est de prendre son sac à dos et de partir par les chemins. Et en général, il revenait en pleine forme, alors qu'il aurait dû revenir, au contraire, dans un état absolument lamentable.
Donc le voyage est une thérapie pour Stevenson.
Au sens strict, pour lui, le voyage a toujours été une thérapie.
Ma chère maman, tu ne devrais pas te sentir blessée par mes absences. Tu dois comprendre que je serai plus ou moins un nomade jusqu'à la fin de mes jours. Tu ne peux pas savoir à quel point j'en ai eu envie autrefois, comment j'allais regarder les trains en partance, et j'étais là, qui désirais si fort partir avec eux.
Alors Michel Lebris, ça s'arrête comme ça, cette archive. Comme beaucoup d'écrivains...
C'était un petit mot à sa mère, ça.
C'était un petit mot à sa mère, oui.
Pour dire qu'il ne reviendrait pas, oui.
Ouais. Ça, c'est émouvant, vous croyez, ce petit mot?
Ah, c'est même déchirant, cette lettre a quelque chose de déchirant, oui.
Donc à 23 ans, il quitte Édimbourg pour la France. C'est là qu'il va à Menton, à Barbizon, à Grès-sur-Loing. Donc c'est une autre vie totalement.
En dehors de Barbizon et de Grès-sur-Loing, tous les lieux où il a vécu sont des lieux de cure, en fait. De lieux qu'on supposait de cure pour la tuberculose qu'il n'avait pas. C'est-à-dire Davos, l'air sec de Méditerranée, l'air maritime de Bournemouth en Angleterre. Plus tard, aux États-Unis, dans les Adirondacks, près du lac à Saranac, sont toujours des lieux de cure et son île dans les mers du Sud, c'est aussi pour des raisons de santé qu'il va se retrouver là et dont il ne pourra plus partir après. Barbizon et Grès-sur-Loing, ça c'est autre chose, c'est sa jeunesse bohème d'Édimbourg. Vous évoquiez les lieux malfamés d'Édimbourg, ça a toujours été fasciné par le vieil Édimbourg, sur ce piton rocher.
Oui, la ville dominant. Vous plaît beaucoup, la ville, vous en parlez très souvent.
C'est vraiment étonnant. C'est une ville coupée en deux. Il y a une artère comme ça. Il y a une ville des lumières, disons, rationnelle, les rues à angle droit, etc., très, très claires. Et puis, il y a ce piton rocheux et cette ville ancienne formidable qui domine et qui va évidemment le fasciner. Et plutôt que d'aller en cours, il traînait dans les bars malfamés à cette époque-là. Oui.
Voilà, donc les bars malfamés, tout à l'heure vous parliez de la Beat Generation, et puis il y a aussi le Paris de Montmartre, un peu avant la grande époque de Montmartre, mais enfin il va quand même connaître aussi la bohème à Paris.
Parce que son cousin, Bob, qui était un peintre qui était surtout son cousin, brillantissime, etc., qui le fascinait. Lui était le petit jeune face à cet extraordinaire Bob Stevenson, qui n'aura pas d'ailleurs, là, tout le monde pensait que c'était Bob Stevenson qui aurait une immense carrière, et ça a été Robert Louis qui l'a eu. Mais là, il retrouve son cousin pas Montmartre, Montparnasse, c'est dans le quartier de Montparnasse qu'il se trouve, à l'atelier de Carolus Duran, etc. Et puis à Grès-sur-Loing, où il y a une colonie de peintres anglais, américains, scandinaves, etc., où un jour il rencontrera une américaine qui est venue là peindre.
Qui est très spéciale, qui a beaucoup de caractère.
Fanny Osborne, elle a été chercheuse d'argent et chercheuse d'or sur le Comstock Lode dans le Nevada. Elle monte à cheval, roule ses cigarettes à cheval d'une seule main, tireuse d'élite, une femme étonnante, extrêmement.
Qui a deux enfants déjà?
Elle en avait trois,
mais
le troisième est mort très jeune à Paris. Elle s'est séparée de son mari, et comme elle a gagné un concours de dessin à San Francisco, dont le prix était justement la prise en charge d'un voyage pour apprendre, se perfectionner dans son art à Paris, elle part avec ses enfants, laisse là son mari, et va tomber sur Stevenson, et ça va être le grand amour.
Donc c'est le grand amour, mais évidemment, elle doit retourner à un moment donné aux États-Unis, en Californie, donc ils décident qu'ils se séparent. Lui part sur son âne pour essayer de se soigner, et elle, elle retourne aux États-Unis.
Puisque elle part, alors son mari est venu la chercher à un moment donné, et elle le renvoie. Et à cette époque-là, divorcer, c'était extrêmement compliqué. Et elle prend la décision de rentrer en Californie avec ses enfants pour divorcer. Et puis, Stevenson n'a plus de nouvelles de Fanny pendant quelques mois.
Et il le vit très mal, d'ailleurs.
Il le vit très mal, parce qu'il se dit, mais elle est partie, mais elle m'a oublié, elle a cédé. Et donc, c'est rempli de frustration, comme ça, pour faire le point sur sa vie à lui, dans ses rapports avec ses parents et ses rapports avec Fanny, qu'il fait ce voyage dans les Cévennes, qu'il pense équivalent un peu des Highlands écossais. C'est pas un âne, c'est une ânesse qui est en chaleur.
C'est une vraie femme. D'ailleurs, parfois,
il tape dessus parce qu'il tape sur Fanny.
Qu'il voit une femme dans
dans la correspondance il écrit à Bob. Et quand il sort ce texte, en lui disant, en gros, en clair, c'est sur Fanny que je tape à bras raccourcis, parce que elle me faisait penser cette ânesse butée, me faisait penser au caractère de Fanny. Et c'est à la fin de ce voyage qu'il prend cette décision de rompre avec sa famille, de prendre tous les risques et de partir la retrouver en Californie.
Et alors là, c'est un voyage aussi épique, parce que à cette époque-là, des Cévennes jusqu'à la Californie,
Il rentre d'abord en Grande-Bretagne, il s'embarque sur la Dévonia, il n'a pas d'argent, il part à l'insu de sa famille, et de fait, il rompt complètement avec elle. Il voyage, le voyage des émigrants de deuxième zone, c'est pas du luxe. Il traverse l'Amérique, c'est dans des wagons quasiment à bestiaux qu'il va vivre la vie vraiment des émigrants les plus miséreux, et c'est un quasi mourant qui arrive chez Fanny Osborne, qui, ouvrant la porte, tout d'un coup voit une espèce de fantôme ou de cadavre face à elle, et la pauvre réalise que non seulement elle va avoir à se débrouiller seule à s'occuper de ses deux enfants, mais en plus de ce type là qui arrive bonjour chérie, je suis mourant, quoi. Voilà,
mais finiront quand même par se marier.
Moi, ce qui m'intéresse plus que la langue, disons, c'est cette espèce de miracle qu'il produit dans sa façon de faire voir. Et je me rendais compte hier soir, en fait, que Stevenson meurt en 1894, et en 95, l'année suivante, naît un nouveau mot qui est cinématographe. Et je trouvais que c'était une connexion étonnante que cet art apparaisse juste au moment où quelque chose a été réalisé par Stevenson. C'est cette façon très 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 fine, très ténue, cette écriture, je ne sais plus qui disait, diamantine, et qui a une très très grande force de représentation.
Vous écoutez La Compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons de Stevenson avec Michel Lebris. Vous êtes d'accord avec Jean Echenoz qu'on vient d'entendre
ici? Tout à fait, surtout que écriture diamantine, enfin il y a peut-être d'autres qui l'ont dit aussi, mais ça me rappelle quelque chose que j'ai écrit effectivement. Mais surtout ce regard, l'acuité de ce regard et le fait qu'il pense en images... a été souligné par un, il y a un texte magnifique que j'avais sorti dans un cahier de Lerne, Stevenson, d'ailleurs de Bertolt Brecht, où il disait à quel point il était fasciné, disant mais c'est de l'écriture pré-cinématographique d'une certaine manière, Stevenson quoi.
Et pourtant oui. Il ne décrit pas les choses non. Très très précisément. Il ne dit pas à droite ceci, à gauche cela, non. Ici c'est rouge, ici c'est vert.
Il crée des impressions ou des images. Mais des images qui frappent comme des images qui vous restent quand vous vous réveillez d'un rêve.
C'est ça le grand art de la description chez Stevenson.
C'est ce pouvoir extraordinaire de suggestion qu'il a, qu'on apprécie pleinement en anglais. Il y a très peu de bonnes traductions de Stevenson, parce que c'est un casse-tête pour de trouver les équivalents en français. Il y a Pierre Léris qui a su, dans Oh là là des montagnes, rendre un peu cette qualité d'écriture. J'en avais discuté avec lui, il me disait, moi, ce rêve de ma vie, ça aurait été de retraduire tout Stevenson, mais il n'y a pas d'éditeur prêt à faire ce pari fou. Je dis, ben si, moi, c'est pas blague. Il dit, mais vous voyez mon âge, maintenant, c'est trop tard.
Alors, en tous les cas, on a laissé Stevenson aux États-Unis. Il s'est marié, il va revenir en Europe, on en parlera bientôt. Mais il faut dire que pour l'instant, il n'a pas encore réellement publié. C'est au fond quelqu'un qui sait dès l'enfance qu'il veut écrire, devenir écrivain, mais qui ne produira son grand chef-d'œuvre, L'île au trésor, qu'assez tard, Michel Lebris.
Alors, il a fonctionné très bizarrement. Il n'est jamais allé à l'école, en fait. Et la manière qu'il a eue d'apprendre la littérature est assez singulière, parce que c'était un travail d'imitation. Il s'est, dans toute sa jeunesse, son adolescence, pour lui lire et écrire ensuite, c'était d'arriver à écrire comme Dumas, comme etc. C'est quand il avait compris comment que ça m'a fonctionné d'une certaine manière, il a progressé comme ça. Et donc arrive quelqu'un qui n'a jamais suivi de cursus universitaire, qui n'a jamais été formaté par des professeurs, etc. Ces dialogues, ça a été avec des écrivains, en pensant qu'un écrivain, c'est d'abord un style. Et donc comprendre un écrivain, c'est comprendre le style, comprendre le rythme, comprendre comment qu'il joue sur les assonances, les silences, etc. Pour lui, il a toujours eu une vision très technique, comme ça, de la littérature.
Sauf c'est que... un artisanat.
Ben, oui, mais ça lui donnait une virtuosité assez impressionnante. Et après arrive autre chose, c'est que, à sa grande surprise, quand il commence à écrire, et écrire, il publie des petits textes, c'est son premier poème, je ne sais pas, il avait 5-6 ans, c'était « The world is so tall ». And I am so small, I don't like it at all, at all. Pas mal déjà pour un petit gamin comme ça. Il est rattrapé par quelque chose qu'il ne comprend pas, par ces ténèbres. Quand il veut écrire une histoire, il dit mais. Et comme il est très impressionné quand même par les récits de Camille, par le climat religieux dans lequel il baigne, il s'est dit mais peut-être finalement que oui, je suis possédé par le diable, c'est pas possible. Comment se fait-il que cette espèce de marée noire comme ça m'envahit quand j'écris? Et il est tellement inquiet, il ne comprend pas ça, qu'il va cesser d'écrire de la fiction. Il écrira des petits récits de voyage, qu'il faut d'ailleurs lire prudemment. Vous parliez du voyage avec une ânesse dans les Cévennes, il faut le lire en parallèle avec son journal. Vous verrez que son journal, quand il s'arrête dans un monastère, il réfléchit sur ce qu'il y a de commun entre le poème et la prière. Il est dans un rapport très d'intériorisation comme ça. Dans le livre qu'il écrit en voulant faire quelque chose au goût du jour, il s'enfuit en disant « mon Dieu, quelle horreur », etc. C'est pas vrai en réalité. C'est des petits écrits. Ça, c'était
donc
fait
on est déjà dans la fiction.
Pour avoir de l'argent, en fait.
C'est présenté comme des guides.
Non, mais c'est, il voulait écrire un petit livre qui aurait du succès, qui lui permettrait d'aller en Amérique, en fait. C'était ça. Et on voit bien que dans son esprit, il bougeait des tas d'autres choses quand on lit son journal. Ce qu'il va comprendre en Amérique, et c'est pour ça que l'Amérique va lui faire un triomphe aussi, c'est qu'il comprend ce qui est au cœur de la littérature américaine, c'est l'expérience qu'on appelle le wilderness, l'expérience d'un rapport à la puissance obscure, à l'œuvre dans le monde tout à la fois créatrice et destructrice, et qui est vraiment, si on ne comprend pas ça, on comprend rien à la littérature américaine et comment elle évolue. Il le comprend au plus profond, puisque c'est sa vie qu'il s'est agi. Et c'est comment transformer cette puissance-là qui peut vous submerger, vous écraser, etc. Comment faire que cette puissance-là soit créatrice et non pas destructrice. Et il va développer toute une théorie de l'imagination créatrice par le pouvoir plastique de l'imaginaire, la capacité à mettre en œuvre, c'est-à-dire en action, cette puissance en soi, mais à la mettre en œuvre, c'est-à-dire en forme, la contenir dans une forme, et à partir de cette pensée-là, elle va le délivrer, cette pensée-là, et après il écrit chef-d'œuvre sur chef-d'œuvre.
Allez, on va parler de cela juste après une pause traditionnelle dans cette émission. Michel Lebris, c'est la désormais célèbre séquence en compagnie des revues. Compagnie des revues avec le non moins célèbre Pierre Croze du réseau social littéraire Babelio. Bonjour Pierre.
Bonjour Mathieu, bonjour
et
Michel.
Et vous nous
bonjour.
Parlez aujourd'hui, Pierre, s'il n'y a pas d'erreur sur ma feuille, non pas de littérature mais bien de jeux vidéo, c'est ça Pierre?
Alors on va quand même parler littérature mais effectivement on va faire une petite écursion dans le monde du jeu vidéo. Alors je ne sais pas si vous allez beaucoup au cinéma, il y a un film qui est sorti il y a quelques jours, qui est encore en salle aujourd'hui, on peut encore aller le voir, c'est Warcraft. Alors c'est un film adapté d'un jeu vidéo rempli d'effets spéciaux et d'images de synthèse. Alors a priori, vous allez me dire que ce n'est pas un cocktail forcément très littéraire. Eh bien, détrompez-vous. Alors le film est certes une adaptation de la franchise de jeu Warcraft, mais ce qui est intéressant avec cette franchise, c'est qu'elle n'est pas uniquement constituée de jeux vidéo, mais elle est également constituée de nombreux romans et de mangas et de bandes dessinées. Sur Babelio, nos membres ont créé plusieurs listes regroupant l'ensemble de ces ouvrages. Et alors c'est un univers qui est cohérent, qui est complexe, avec une chronologie officielle. Et donc voilà, les épisodes et les romans sont intégrés dans cette chronologie, dans ce canon. Et alors les critiques des lecteurs sont très bonnes. Donc si vous écoutez France Culture en jouant à Warcraft, n'hésitez pas non plus à vous plonger dans les romans. Ils sont disponibles chez Fleuve Édition et Panini.
Je ne sais pas si on peut faire les deux en même temps, mais est-ce que de manière générale, il existe beaucoup de liens entre littérature et jeux vidéo, Pierre ?
Eh bien écoutez, les liens entre littérature et jeux vidéo sont peut-être plus féconds qu'on ne pourrait le croire, ou que certains voudraient le croire. Après tout, derrière de nombreux jeux, il y a une histoire qui est racontée aux joueurs. Il y a aussi des... Et puis, ces histoires ne sont pas forcément plus simplistes que certains romans qui sortent tous les jours en librairie. Il y a aussi des personnages que l'on incarne et dont on aimerait en savoir un peu plus, avec notamment des romans. Alors je pense là à la série par exemple des livres Assassin's Creed, publiés chez Milady, qui explore l'univers du jeu vidéo. C'est un jeu qui connaît un énorme succès. Et donc voilà, les romans permettent de se plonger un peu plus dans cet univers.
Vous opinez du chef Michel Lebris, vous jouez à Assassin's Creed?
Non, je ne joue pas, mais comme je suis un drogué de science-fiction, de fantasy, etc. depuis mon plus jeune âge, c'est un univers qui a priori m'est très sympathique et ça démontre le besoin. Nous sommes une espèce fabulatrice, comme dit Nancy Heston. Nous avons, enfin, cette puissance-là de l'imaginaire, elle ressort par tous les côtés. Je veux dire, veut-on la contraindre? C'était le chic français à une certaine époque, hein, ou même cette idée que l'imagination maîtresse d'erreurs et de faussetés, etc. Je veux dire, on fictionne le monde en permanence pour l'habiter. Et peu importe qu'il s'agisse de littérature, de cinéma, de jeux, etc. Ce qui compte d'abord, c'est cette habitation du monde par l'imaginaire.
Il y a de plus en plus de jeux vidéo qui sont adaptés en roman.
Oui, exactement. Est-ce qu'il y a des jeux qui s'inspirent directement de la littérature?
Oui, alors il y a l'écrivain Tom Clancy qui a donné son nom à toute une série de jeux vidéo. Octobre Rouge, c'est son roman le plus célèbre, peut-être l'avez-vous lu. Il a été adapté dès 1987 en jeu vidéo. Alors 87, c'est vraiment la préhistoire du jeu vidéo. C'était d'ailleurs 3 ans avant son adaptation au cinéma. Et alors certains univers sont peut-être plus facilement adaptables en jeu vidéo. On retrouve beaucoup de science-fiction et de fantasy. Le jeu Dune, par exemple, a marqué de très nombreux joueurs, qu'ils aient lu ou pas d'ailleurs le livre de Frank Herbert. Et de nombreux jeux d'aventure et d'horreur s'inspirent directement, implicitement ou explicitement explicitement de Lovecraft, qui faisait l'objet d'une émission.
Oui, d'une beaucoup série de jeux aussi de rôle s'inspirent de Lovecraft.
Effectivement, c'est un univers très adapté en jeu vidéo. Alors je disais que certaines œuvres littéraires s'adaptaient peut-être plus facilement que d'autres en jeu vidéo, mais j'invite tout de même les auditeurs à aller chercher sur Internet les adaptations en jeu vidéo de la pièce En attendant Godot. Ça a été adapté, donc je vous laisse découvrir le résultat. Il y a aussi Gatsby le Magnifique qui a été adapté en jeu vidéo. Vous risquez d'avoir une surprise en cherchant ces ouvrages, ces jeux.
Et l'œuvre de Stevenson, alors, pour terminer, est-ce qu'elle fait aussi l'objet d'adaptations?
Oui, alors il y a eu d'innombrables adaptations plus ou moins réussies, plus ou moins fidèles de ses romans. Mais il y a aussi une série de jeux.
Toutes loupées, hein, faut dire.
Toutes loupées. Vous y avez joué?
Non, certaines... quand je parle des adaptations cinéma...
Ah oui. Alors en jeu vidéo, il y a un peu de tout. Et alors il y a une série de jeux qui a connu un énorme succès à travers les décennies et à travers le monde. C'est Monkey Island, c'est un jeu d'aventure traversé de références à l'œuvre de Stevenson. Et moi je suis assez persuadé que c'est un jeu qui a amené des joueurs à lire l'œuvre de Stevenson.
Eh bien, merci Pierre Croce, très bel été à vous. Moi, je vous donne rendez-vous à la rentrée d'ici là sur le réseau social littéraire babelio.com. Du Nord au Pacifique Sud avec un détour par la Californie, c'est la compagnie des auteurs que vous écoutez et nous sommes avec Michel Lebris pour parler de l'auteur de L'île au trésor, du maître de Ballantré et de Dr. Jekyll and Mr. Hyde, Stevenson.
Nous vivons ici dans un merveilleux pays parmi d'admirables gens et qui m'intéressent. La vie est encore très dure. Ma femme et moi, nous demeurons dans un cottage à deux chambres, élevé d'environ 3650 pieds au-dessus du niveau de la mer. Nous avons dû nous frayer un chemin pour y atteindre. Nos approvisionnements sont très imparfaits. Dans le temps doux de cette saison, saison des tempêtes, nous avons beaucoup d'incommodements. Une nuit, le vent soufflait si outrageusement contre notre petite maison que nous avons dû rester dans l'obscurité. Et comme le fracas de la pluie sur le toit étouffait tout son de voix, vous pouvez vous imaginer que la soirée nous parut longue. Toutes ces choses, pourtant, me charment. Vous me dites que c'est l'artiste inconscient en moi qui m'a poussé au voyage. La division n'est pas exacte. J'ai en moi 6/10 d'artiste et 4/10 de chercheur d'aventure.
Une lettre de Stevenson à l'écrivain français Marcel Schwab dans laquelle Stevenson dit son plaisir à vivre dans les îles Samoa. Alors ça c'est la fin de la vie de Stevenson, une vie qui est assez courte. Et le départ qui va conduire finalement Stevenson et sa famille jusque sur ces îles, c'est peut-être la mort de son père qui, oui, d'une manière ou d'une autre, le provoque.
Mais à peine son père mort... Il s'enfuit littéralement et en Amérique, est accueilli à New York comme une star. On lui fait des propositions financières qui lui paraissent absolument...
Donc ça, c'est à cause de L'île au trésor, en fait, qui lui a fait totalement...
Non, de Dr. Jekyll. Ah oui. On dit souvent que c'est L'île au trésor. Non, c'est Dr. Jekyll qui a assuré sa célébrité mondiale, le succès immense aux États-Unis. Ça a été Dr. Jekyll. Et les Anglais, qui regardaient toujours Stevenson d'un air un peu suspicieux,
C'est un Écossais
épatés.
Aussi, c'est pas un
oui,
Anglais.
Oui, non, mais le succès en Grande-Bretagne est venu du succès en Amérique. Et c'est là qu'on a redécouvert L'île au trésor, qui était sortie dans une revue pour enfants, en feuilleton. Bon, très apprécié, mais pas plus. Et surtout, laissant tous ses amis absolument consternés, parce qu'une vraie carrière littéraire ne se construit pas, et on le considère comme un hyperdoué. On se dit, mais qu'est-ce qui lui prend d'écrire ces petites choses au lieu des œuvres sérieuses que l'on attend de lui, un tel talent gâché, etc. Bref. Et Donc c'est Dr. Jekyll qui lui assure ce succès. Il arrive à New York, les Scribner Magazine, etc. sont là en lui faisant des propositions absolument mirifiques. Il choisit d'ailleurs Scribner parce que ça lui paraît la solution la plus enrichissante, disons, mais ça lui paraît la meilleure littérairement. Il s'installe donc à Saranac dans les Adirondacks où il va passer un hiver absolument parce que c'est vraiment il a le génie de trouver des endroits, mais alors, bon, lui, ça allait, il écrivait. Vous imaginez sa femme en train de couper du bois.
Et les enfants dans la
neige.
Femme.
Oui, non, mais dans la neige, avec des difficultés sans nom. Lui, il est absolument ravi parce qu'il adore vivre à la dure. Quand il s'était marié en Californie, il s'était installé à Silverado dans une mine d'argent désaffectée avec plein de serpents, de poison oak. C'est une herbe qui vous file des cloques, des trucs. Quand les gens qui l'ont découvert là-bas, ils se sont dit mais ils sont fous. Ils pouvaient aller très bien dans un hôtel en bas. Non, ils étaient ravis de vivre comme ça. Là, à Saranac, lui, il est ravi. Elle aimait bien sa maison en Grande-Bretagne quand même parce qu'elle en avait tellement bavé dans sa jeunesse avant que bon voilà un peu de luxe en plus elle avait horreur de naviguer, elle avait le mal de mer tout le temps et puis la voilà qui retraverse l'Atlantique. Bon, elle fait front.
Et Stevenson toujours évidemment malade.
Oui mais ravi en même temps, il est en train d'écrire le maître de Ballantrae à ce moment-là.
Alors il écrit au lit parce qu'il est parfois très
faible. Ben souvent quand il est malade, il écrit au lit. Alors ce qui complique, parce que j'ai pour éditer la correspondance, bien sûr, quand je vais à la Beinecke Library, donc à New Haven, à Yale, on me fait après bien des discussions, on me fait des microfilms. Et c'est après, quand ces microfilms ont été développés et retournés en France, que je me suis dit, aïe. Parce que, comme il écrit au lit quand il est malade, il écrit comme ça, mais très mal, il n'a pas d'orthographe, n'étant pas allé à l'école. Écrit ses L, ses P, ses T, ses trucs exactement de la même manière. Donc, pour arriver à comprendre qu'est-ce qu'il dit, je vous assure que j'ai paniqué un peu. Surtout que quand il était un peu mal d'un côté, il se tournait et il écrivait de la main gauche ensuite. Alors... Eh bien, quand il faut, j'ai appris l'écriture de Stevenson pour pouvoir donner au traducteur le texte des lettres à traduire. Quoi.
Un peu, hein, une donc, écriture voilà, de médecin, il y a beaucoup de médecins chez Stevenson.
Et il écrivait souvent comme ça, effectivement. Et
donc ils partent alors des États-Unis. Pourquoi les îles Samoa? Donc c'est pas toutes les îles Samoa. D'abord il va y avoir l'Australie.
Pas du tout. En fait c'est une série de hasards. Ils n'avaient pas du tout pensé à ça. Ils en avaient tellement bavé quand même dans cet hiver. Puis ils se rendaient compte qu'il avait demandé un peu beaucoup peut-être à Fanny. Ils se disent il faudrait peut-être des pays chauds, un peu de vacances, etc. Ils ont un peu d'argent et ils rêvent de croisière ou de voyage dans l'espace méditerranéen. C'est à un moment-là, un agent américain vient, McClure, qui propose un pont d'or pour un récit de voyage dans les mers du Sud. Stevenson, génial, effectivement. C'est Fanny, comme toujours, qui prend les devants, qui va à San Francisco, qui loue un yacht, mais très beau d'allure, mais qui n'était pas du tout fait pour affronter l'océan Pacifique. Il faut se rendre compte qu'à l'époque, il n'y avait pas les cartes qu'il y a maintenant, etc. C'était dangereux. Et ils embarquent à San Francisco pour Hawaï d'abord et ensuite la grande aventure avec à bord Valentine Rock, une domestique, Maggie, sa mère pendant un temps et Fanny avec le petit Lloyd, son fils. Fanny, malade tous les jours, pendant tout le temps que durera quand même cette traversée. Il faut bien se rendre compte. Simplement, ils vont tomber malades. Enfin, lui tombe malade en Australie. Le médecin va lui dire, écoutez, il faut... lui conseille les îles des mers du Sud. Ils avaient fait halte dans une petite île. Pourquoi Samoa? Parce que c'était les lignes de paquebots passaient par là. Et c'était le seul endroit dans tout l'océan Pacifique où ils pouvaient recevoir des courriers venant des États-Unis et envoyer ces manuscrits à l'éditeur. Donc, il va s'installer là. Et certaine manière, il n'en sortira plus à partir de ce moment-là.
Alors Samoa, Michel Lebris, c'est là qu'il va écrire ce que vous, vous considérez comme étant réellement un chef-d'œuvre, qui est un livre qui n'est pas très connu, qui s'appelle « Ceux de Falaisa ».
Oui, « The Beach of Falaisa », souvent traduit par « la plage », mais ce n'est pas du tout la plage, c'est « the beach », le bêche de mer, la langue de la langue commune, disons, des mers du Sud, la langue des trafiquants, des marins, etc. Et il écrit donc un roman pré-conradien, alors vraiment très âpre, sur ce qu'on appelait les mariages d'un jour à l'époque, ce qui permettait de conjuguer la morale dans les pays je crois que l'État islamique pratique la même chose pour ne pas
donc, mariage et divorce dans la même journée.
Ben, le lendemain matin quand même, après la nuit de après la nuit de noces, il dénonce d'une manière très violente cette pratique dans ce livre qui va tomber ses amis londoniens quand le livre arrive. Ils disent, mais qu'est-ce que c'est ces histoires de nègres d'abord, ça n'intéresse personne. Et puis écrit dans un langage vulgaire, hein, puisqu'effectivement, il y a tout un travail sur la langue dans ce livre-là, qui sera, d'une certaine manière, il ne sortira jamais dans sa version authentique. Il sera coupé, taillé, réécrit. Moi, j'ai publié en France, à partir du manuscrit d'origine, le véritable texte de Stevenson, et il y aura vraiment une opération de censure extrêmement dure là-dessus, qui vivra très très mal, parce que c'était une évolution qui s'amorçait à ce moment-là. Pour lui, c'était le début de quelque chose, ça s'arrêtera là.
Alors justement, c'est ça qui est passionnant aussi avec ce texte, c'est que on le voit intégrer une nouvelle forme, oui. Après avoir exploré le récit d'aventure, puis le récit fantastique, il est là dans quelque chose qui est effectivement très littéraire, mais qui s'apparente, étant un sujet d'actualité, au journalisme. D'ailleurs, il va d'abord le faire publier dans un journal, le Sun.
Oui, alors, journalisme, The Beach of Falaisa, non, ça prend simplement, ça parle de la réalité.
En termes de sujet seulement.
Oui, c'est
en donc réaliste, de... réaliste, il faudrait
oui,
plutôt
il,
utiliser le terme réaliste.
Il invente une fiction à partir du réel. Et ça, c'est lui qui écrivait. Alors, vous disiez roman d'aventure, roman fantastique. Moi, je ne ferai pas de catégorie comme ça. Pour lui, toute littérature est nécessairement aventureuse, puisque quelque chose arrive à quelqu'un. Sans ça, il n'y a pas de roman. Et fantastique, c'est constant dans toute son œuvre. Dans L'île au trésor, tout fonctionne sur cette part d'ombre qui est incarnée par le pirate Long John Silver et le rapport trouble du gosse à ce pirate. Il y a quand même un passage qu'on traduit rarement dans les éditions de Stevenson, où il a un rêve, où il est poursuivi par ce pirate avec une jambe de bois, dont la jambe de bois est placée sur le ventre et dressée. Les psychanalystes se régaleraient avec des images comme cela. C'est un jeu avec l'ombre. C'est toujours chez lui, les choses sont toujours étroitement intriquées.
Il est dans le mélange des genres, en tous les cas, quand
Mais
même.
C'est plutôt le genre, les genres qu'il récuse. C'est une autre idée de la littérature qu'il cherche. Et là, il y a un rapport d'intensité, d'incandescence au monde. C'est la première fois qu'il découvre, en fait, un monde. Le choc d'un monde sauvage, qu'il défend, enfin, sauvage entre guillemets, c'est-à-dire, il va prendre fait et cause pour les Samoans.
Qui le lui rendront bien d'ailleurs, parce qu'ils aimaient beaucoup qu'ils appelaient le raconteur d'histoire.
Il est allé, Tusitala, oui, mais il est allé très loin dans cette défense-là, c'est-à-dire qu'il s'est opposé, il a failli être déporté, il a dû en appeler à l'opinion publique. Un procès lui a été fait sur place, etc., parce qu'il prend fait et cause pour les Samoans qui sont soumis à un triple protectorat, allemand, américain, anglais. Et il faut savoir que la dernière révolte des Samoans, ça se passera dans sa propriété, ça sera réduit au canon par les Allemands.
et quand il mourra, 400 Samoans porteront son cercueil.
Comment puis-je t'annoncer cette terrible nouvelle ? Mon fils adoré a été brusquement rappelé à Dieu hier soir. À 6 heures, il allait bien, avait de l'appétit pour le dîner et aidait Fanny à faire une mayonnaise. Soudain, il s'est pris la tête à deux mains et a dit « Oh, que j'ai mal !» Puis il a ajouté « Est-ce que j'ai l'air bizarre ?» Fanny a dit que non, elle ne voulait pas l'inquiéter, et elle l'a aidé à gagner la salle où elle l'a installé dans le fauteuil le plus proche. Elle nous a demandé de venir et je suis arrivé tout de suite, mais il avait perdu connaissance avant que je sois près de lui, et il est resté ainsi pendant 2 heures. À 8h10, tout était fini. Ses boys se sont rassemblés autour de lui, et les chefs de Tanuga Manono sont arrivés avec de belles nattes dont ils ont recouvert le lit. C'était très touchant de les voir s'incliner en disant « Talofa Tuzitala », puis repartir après l'avoir embrassé avec ces mots « Tofa Tuzitala ». Ensuite, nos boys catholiques romains ont demandé s'ils pouvaient installer une chapelle, et ils ont psalmodié des prières et des hymnes pendant longtemps d'une voix très douce. L'un d'eux a pleuré à chaudes larmes en disant « Mataafa est mort, Tuzitala est mort, et nous n'avons plus personne. »
Et c'est donc à Samoa que va mourir Stevenson à l'âge de 44 ans, comme sa mère le raconte ici dans une lettre à sa sœur, Michel Lebris.
C'est le seul blanc auquel les Samoans ont rendu cet hommage-là. Il n'y en a pas eu avant ni après. C'est dire le rapport exceptionnel qui s'était noué entre eux et lui.
Donc pour vous, il a été brisé dans un élan à la fin de sa vie, évidemment parce qu'il est mort très jeune, mais aussi parce que on ne lui a pas laissé publier ses livres réalistes qu'il souhaitait publier en tant que tel.
Quand j'ai édité donc ceux de Falaisa, j'ai joint tout le dossier lettres à l'appui, échange de lettres à l'appui, de comment le monde littéraire s'est entendu pour disons châtrer ce texte, comment ils ont joué systématiquement pour The Wrong Box, par exemple, n'a jamais été édité, n'est pas encore aujourd'hui édité dans le texte original. Ça a été réécrit à l'insu de Stevenson. Graham Greene, en 1950, était intervenu en disant « mais c'est quand même invraisemblable, le manuscrit d'origine existe ». On continue à publier le manuscrit corrigé par Sidney Colvin.
Je veux dire, c'était son ami en plus.
Oui, enfin c'était un ami, mais tellement de la bonne société. Et puis il y avait quand même une petite histoire entre les deux, c'est que la femme de Sidney Colvin avait été quand même auparavant un peu la maîtresse de Stevenson quand il était jeune. Et je pense que Sidney Colvin le savait. Donc il y avait un rapport d'amour-jalousie. Mais tous les proches de Stevenson ont eu ce rapport d'amour, jalousie, et lié aussi à une incompréhension, je dirais presque sociale. Le milieu littéraire était quand même un milieu qui restait extrêmement conservateur, bourgeois, etc. Et cet Olybrius habillé n'importe comment, qui tenait pas en place, qui faisait jamais ce qu'on attendait de lui, son ami Hanley, qui est le modèle de Long John Silver, d'ailleurs, qui était blessé à une jambe, là, en
quiquiné. Long John Silver, qui est devenu le modèle de tous les pirates.
Voilà, l'a enquiquiné pendant des années pour quasiment le forcer à écrire des pièces de théâtre, parce qu'il ne l'intéressait pas du tout. Et alors là, comme je vous disais, il y a, devant ce monde, c'était à la fois un monde sauvage et une réflexion sur le sauvage, c'est-à-dire, mais si c'est ce que l'on appelle sauvage, sont capables d'une une conception esthétique du monde, sont capables de produire des œuvres, des sculptures, etc., aussi belles. Il y a donc quelque chose dans l'esprit humain qui n'a rien à voir avec ce qu'on appelle civilisation, qui est ce pouvoir plastique de l'imaginaire. Il était fasciné par ça, et il avait le sentiment en même temps qu'il y avait un monde en Gésine qui était en train de naître du contact avec ça. Il est le premier, avant Gauguin, Ségalène, etc., à penser à tout ce qui va venir après, qui va renouveler l'art moderne. Pensez à ça quand vous pensez à Stevenson.
Nous y penserons, de même que nous allons y penser en écoutant un peu de poésie.
Holy, holy, holy.
Car vous le savez, Michel Lebris, j'en suis sûr, à 15h54, c'est le moment sur France Culture de la dernière séquence de cette émission. Et en cette dernière semaine, Jacques Bonafé a choisi de lire des poèmes de deux auteurs proches de Christophe Tarkos, dont il nous a déjà lu des textes fin mai. Ces deux poètes, ce sont Charles Penquin et Nathalie Quintane.
Bonjour. Dernier dribble avant l'été, d'un poète l'autre et toutes les langues du monde en moins de 100 coups de glotte. Nous reprenons les secousses répétées du poète Christophe Tarkos et nous les transmettons direct au clameur poète Charles Penquin. Charles Penquin, dans son pamphlet contre la mort aux éditions POL, commence comme une provocation ou comme en tête de manif ouvrière par un beau cercueil. Un cercueil tout beau, tout propre, un cercueil bien plein avec rien dedans. Il y a rien, mais c'est plein, ça attend juste d'être rempli. C'est tout plein d'attente d'être rempli et c'est plein d'air aussi. C'est un cercueil tout plein qui se remplit d'air, tout beau, tout neuf, bien plein de l'idée qu'il va servir, qu'il a un but. C'est ça qui remplit le cercueil, qui le gonfle. Le cercueil se gonfle avec rien. Et nous passons d'une page à l'autre, quittant le poème de 12 pages du cercueil. Papa, mon petit papa, pourquoi tu t'es laissé avoir? Pourquoi tu t'es fait rétamer par la vie, par tout ce qui t'a pourri l'existence? Pourquoi, petit papa, pourquoi tu t'es fait traiter plus bas que terre dans l'existence, mon petit papa? Pourquoi même moi, je t'ai pas parlé, je t'ai pas regardé, je t'ai pas vu, j'ai rien vu, rien connu de toi, petit papa, j'ai rien su vivre avec toi, car j'ai comme rien vu vivre dedans le petit papa. J'ai pas pu vraiment penser à toi, ou alors j'avais peur quand j'y pensais, peur de toi, mon petit papa. Oui, car je pensais que tu allais m'égorger dans la nuit, je ne voulais pas m'endormir, je voyais le grand géant arriver pour me tuer toutes les nuits, j'ai pensé que tu montais après pour me tuer, non pas pour aller dormir, je me cachais sous les draps, j'apprenais à ne plus respirer, je respirais peu, je sortais de dessous la couverture tout trempé, j'en pouvais plus, la bête était passée, elle ne m'avait pas vu cette fois, c'était moins une, tu ne m'as pas encore tué cette fois mon petit papa. Je coupe et découpe pamphlet contre la mort, je tombe sur la poésie. Je ne travaille pas la poésie, je ne travaille jamais. Je travaille mais ça ne travaille jamais, c'est de la poésie. La poésie travaille, je ne travaille pas. C'est jamais le moment, quand est-ce le moment de travailler? C'est de la poésie, je ne travaille jamais. La poésie est travaillée, qui est-ce qui me travaille? Nous ne travaillerons jamais, la poésie agit dans l'espace. La poésie est pauvre, c'est ta pauvreté. Nous sommes pauvres, nous sommes tristes, nous voulons travailler. La poésie est une preuve. Nous foutons rien. Elle prouve une existence. C'est pour qui la dédicace? La poésie prouve un espace, n'importe lequel. C'est n'importe quoi. Ta gueule, fermez-la. Écoutez cette parole.
Vous entendre parler de Paradise Lost ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les sonnets de Shakespeare.
Jacques Bonafé lisait des textes de Charles Penquin, extraits de Pamphlet contre la mort, .org, à une compagnie des auteurs que nous consacrons toute cette semaine à la vie et à l'œuvre du grand écrivain écossais Robert Louis Stevenson. Dans ce studio aujourd'hui, il y avait Michel Lebris, que je remercie. Michel Lebris, dont les ouvrages liés d'une manière ou d'une autre à Stevenson sont innombrables. Citons le dernier en date, c'est la préface à la nouvelle « Ceux de Falaisa » dont nous avons parlé dans cette émission, paru cette année aux éditions de la Table Ronde. Pour les autres références, rendez-vous sur notre site sur lequel vous pouvez réécouter cette émission en podcast. Nous retrouver également sur les réseaux sociaux. En attendant demain, il y a un numéro consacré au double terrifiant qui coexiste chez Stevenson et qui s'incarne dans Les Frères Ennemis du Maître de Ballantré ou bien entendu dans Jekyll and Hyde. Cette émission était réalisée par Marie Chartron. À la console, il y avait Bruno Gagnère-Fontani. Un grand merci à Pascaline Bonnet, Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost et Sophie de Lombarès, sans qui cette émission ne pourrait avoir lieu.